Vos informations avec Axel May et Bernard Poiretz.
Axel, bonjour.
Bonjour à tous.
Quelle est la une ? Eh bien, le philosophe et académicien Alain Finkielkraut a été insulté hier en pleine rue à Paris.
Oui, insulté par des gilets jaunes dans le quartier de Montparnasse. Europe 1 vous racontera à la scène dès le début de ce journal. Le grand débat national s'invite dans les bureaux de poste. Reportage à suivre. Qui est François-Xavier Bellamy ? Ce philosophe est la tête de liste Les Républicains pour les prochaines élections européennes. Il existe depuis 135 ans. Le carnaval de Nice a commencé hier sur le thème du cinéma. Nice, où les footballeurs ont subi, on peut le dire comme ça, une dérouillée hier, battue 3-0 par Angers. À l'inverse, Marseille et Monaco vont mieux. Ce sera le journal des sports dans une dizaine de minutes.
Europe 1. Heureusement que les forces de l'ordre étaient là, j'ai ressenti une haine absolue. Voilà ce que dit Alain Finkielkraut après avoir été pris à partie par des gilets jaunes hier.
Des propos recueillis par nos confrères du journal du dimanche, celui qui est à la fois essayiste, philosophe et membre de l'Académie française, a donc été interpellé par des manifestants alors qu'il rentrait chez lui à Montparnasse, à Paris. Les insultes à son encontre ont fusé à Claudia Bertram.
C'est par hasard qu'Alain Finkielkraut croise la route de manifestants hier après-midi en raccompagnant un proche. Il va à leur rencontre par curiosité et très rapidement, il est pris pour cible. Des cris de haine, des sifflets et des injures antisémites, comme on l'entend sur cette vidéo postée sur les réseaux sociaux.
Nous sommes le peuple.
Il est venu exprès pour nous provoquer.
Il est venu exprès.
Barthois sale sioniste, retourne à Tel Aviv. Ou encore, tu vas mourir, lui hurle certain. Des policiers s'interposent rapidement pour protéger le philosophe. J'ai été obligé de fuir de peur qu'il me casse la gueule. Et je pense que ça aurait pu mal tourner, confie-t-il aux Parisiens. Selon lui, les manifestants visaient avant tout ses liens et ses positions sur Israël. Ayant soutenu le mouvement des Gilets jaunes à ses débuts, Alain Finkielkraut estime qu'il n'aurait pas subi le même genre d'insultes sur les ronds-points. Il ne compte pas porter plainte, précise-t-il.
La classe politique condamne dans son ensemble cette agression. Le président de la République, Emmanuel Macron, a lui-même téléphoné à Alain Finkielkraut pour lui apporter son soutien.
Pour être complet, précisons que sur les réseaux sociaux et aussi par SMS et sur les tweets ce matin sur Europe 1, certains disent, attention, ce n'étaient pas des insultes antisémites, mais des insultes anti-sionistes. Mais en tout cas, je pense que ce débat n'a pas fini de tourner. Les Gilets jaunes étaient un peu plus de 40 000 mobilisés hier à travers toute la France.
Chiffre fourni par le ministère de l'Intérieur. C'est moins qu'il y a une semaine, mais pour célébrer les 3 mois de leur mobilisation, des gilets jaunes ont promis de revenir aussi aujourd'hui dans les rues de Paris. Yannick est l'un de ces gilets jaunes mobilisés depuis le début.
Je suis fatigué, mais je lâcherai pas quoi qu'il en soit. Si ça doit durer 6 mois, je serai là. On lâchera pas. C'est le moment où on peut changer les choses. Beaucoup de gens ont dit pendant des années qu'il se passait rien en France, que les Français ne font que râler à la maison. Et finalement, aujourd'hui, on est en train de prouver le contraire. À la limite, ce qui peut casser un peu le mouvement, c'est peut-être l'opinion publique, si les gens arrêtent de nous soutenir. Mais à partir du moment où quelqu'un a un souci avec ce gouvernement, peu importe pour quelle raison, il est forcément, même sans le savoir, gilet jaune.
Un gilet jaune rencontré par Rémi Botsaron. Hier, il n'y a heureusement pas eu de débordement important, mais des incidents isolés. On parlait il y a quelques instants d'Alain Finkielkraut. Dans le journal de 8h30, vous entendrez ce qui est arrivé à une patrouille de policiers dont la voiture a été copieusement caillassée par des gilets jaunes près de Lyon. Ils ont profité, hein, ces gilets jaunes, du fait que le véhicule des policiers était coincé dans les embouteillages pour lancer dessus divers objets.
Et pendant les manifestations du samedi, eh bien, le grand débat continue et ce grand débat s'invite désormais dans des endroits assez surprenants, par exemple les bureaux de poste ou les gares.
Grâce aux jeunes, ils ont été mis à contribution pour animer des ateliers toute une journée. L'objectif, récolter les doléances et faire remplir des questionnaires sur les thèmes du grand débat. Reportage dans un bureau de poste de Nanterre signé Marion Jorte.
À l'entrée de la poste, Inès, 21 ans, étudiante à Sciences Po, distribue les 4 questionnaires du grand débat aux clients.
Vous connaissez le grand débat national ?
Dans la file d'attente, Audrey, 27 ans, pas vraiment convaincue, se prête au jeu.
Je vais être rentrée, là, ici.
Parmi les 4 grands thèmes, la fiscalité, la citoyenneté, la transition écologique et l'organisation de l'État et des services publics, elle choisit la fiscalité.
Afin de baisser les impôts et réduire la dette, quelles dépenses publiques faut-il réduire en priorité? Moi, je dirais les dépenses de l'État et les dépenses sociales.
Et 15 minutes plus tard, le temps de remplir les 11 questions, Audrey a changé d'avis.
On se dit que voilà, on a un petit mot à dire et voir ce que ça peut donner comme amélioration plus tard.
Faire de la pédagogie pour donner envie de participer au grand débat, c'est justement l'objectif de cette animation, explique Natacha, venue tenir le stand pour la journée.
Notre travail à nous, c'est de pouvoir amener directement ces questionnaires face à ces personnes qui n'y auront pas forcément pensé, qui n'iront pas sur Internet. On leur explique ce qu'est le grand débat si elles ne le savent pas. Et ensuite, on les aide à remplir les questionnaires ou si elles veulent le faire toutes seules, elles peuvent aussi et reviennent nous les donner.
Tous ces questionnaires seront ensuite étudiés un par un. À partir de lundi, 12 stands itinérants feront le tour de la France et s'arrêteront dans les postes et dans les gares.
Un reportage signé Marion Jort pour Europe 1.
Il sera tout à l'heure l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Ça commence à 10h, je vous le rappelle. Il s'appelle François-Xavier Bellamy. Mais qui est vraiment la tête de liste Les Républicains pour les européennes?
Eh bien, à 33 ans, cet agrégé de philosophie était jusqu'ici adjoint au maire de Versailles, peu connu, il faut le dire, du grand public. Aurélie Herbemont, cette fois, François-Xavier Bellamy est dans le grand bain politique.
Vous êtes beaucoup trop jeune, pas assez connu, vous allez vous faire détruire. C'est Nicolas Sarkozy qui a ainsi mis en garde François-Xavier Bellamy. L'ancien président n'a pourtant pas découragé le prof de philo. Si on était raisonnable et prudent, il ne faudrait pas y aller, lui a dit Nicolas Sarkozy, avant d'ajouter « Je n'ai jamais été raisonnable et prudent, il ne faut pas écouter mes conseils. » Voilà donc François-Xavier Bellamy en pleine lumière, dans l'arène politique, cible de critiques, de l'opposition et parfois aussi de son propre camp, où on doute de sa capacité à rassembler toute la droite. Derrière lui, il le reconnaît, en acceptant d'être tête de liste, il quitte son statut, assez confortable d'observateur, de philosophe, salué pour ses livres. Mais François-Xavier Bellamy n'a pas pu refuser de conduire la liste LR aux européennes. Il le confie, « Je me suis dit que je me sentirais illégitime de continuer à écrire sur ce qui ne va pas. »
Aurélie Herbemont du service politique d'Europe 1. Un mot de l'actualité internationale, la candidate de Donald Trump pour représenter les États-Unis à l'ONU renonce, on l'a appris cette nuit. Heather Nauert, ancienne journaliste de télévision, faisait l'objet de vives critiques concernant son inexpérience d'ambassadrice internationale.
Dans un court instant, la suite de ce journal. Si votre enfant est asthmatique, eh bien l'application dont nous allons vous parler devrait, en toute logique, vous intéresser. À tout de suite.
Il est 8h07 sur Europe 1. Reprise de l'actu avec Axel May et Bernard Poiret.
Axel, je ne le savais pas, mais les problèmes d'asthme concernent un enfant sur 10 en France. Et ce n'est pas toujours évident, quand on est parent, d'appréhender ces problèmes respiratoires.
Alors l'hôpital parisien Necker Enfants Malades a conçu avec l'Université Paris-Descartes une application gratuite à télécharger sur son smartphone pour que les parents apprennent à mieux connaître l'asthme de leur enfant. Explication, Mélanie Gomez.
Ces médecins sont partis d'un constat. 80% des parents d'enfants asthmatiques ont des difficultés à prendre en charge correctement une crise d'asthme à la maison. Du coup, ce que leur propose cette application, c'est justement de s'entraîner à les gérer virtuellement. Une fois créé le profil d'un enfant asthmatique fictif, avec les caractéristiques, poids, taille, médicaments de son propre enfant, l'appli propose plusieurs scénarios. Par exemple, dans l'un d'entre eux, l'enfant fait une crise modérée, il siffle, c'est-à-dire qu'il fait un bruit en expirant, il tousse, respire vite, c'est là que la simulation débute, explique le docteur David Drumont, pneumopédiatre à l'APHP à l'hôpital Necker.
À partir de cette observation, le parent va aller chercher dans le menu le traitement d'urgence. Il va devoir respecter toutes les étapes d'administration, c'est-à-dire qu'il va devoir retirer le capuchon du spray, ensuite secouer le spray, ensuite l'adapter à la chambre d'inhalation de l'enfant, administrer les bouffées une par une en laissant respirer l'enfant au moins 5 fois entre chaque bouffée, comme c'est recommandé.
Et cette simulation, ça permet donc de s'entraîner sans risque à gérer l'asthme de son enfant. Et on sait que lorsque les parents sont bien formés, ça paye. Ça permettrait de réduire d'environ 40% le recours à un médecin ou aux urgences.
Et je vous donne le nom de cette application, oui, téléchargeable gratuitement sur Internet, EFIC Asthme. Alors ça s'écrit EFIC E2FIC, puis plus loin, asthme. Vous aurez évidemment reconnu qu'il y a un jeu de mots.
Évidemment. Chaplin, Belmondo, Louis de Funès, tous réunis à Nice. Mais de quoi s'agit-il?
Du carnaval de Nice qui a débuté hier. Cette 135e édition est placée sous le signe du cinéma. Les acteurs que vous venez de citer ornent les chars carnavalesques. Frédéric Michel a laissé traîner son micro européen au milieu des nombreux spectateurs.
Nice fait du bruit. C'est un rendez-vous et aujourd'hui il fait très beau, donc c'est un rendez-vous d'autant plus agréable. Toujours le même plaisir.
Voici, sous vos applaudissements, la brigade d'agitation des tribunes.
On agite. Nous, notre boulot, c'est de mettre l'ambiance et de kiffer avec les gens. C'est un partage.
Ça change. Puis en France, on n'a pas beaucoup de spectacles comme ça. Bah, je le conseille à tout le monde.
Roi du cinéma.
Les chars sont pas mal décorés et très bien faits. Il y a un très gros travail en amont.
C'est la deuxième fois qu'on vient. On vient de Champagne-Ardenne, mais c'est super. Tout est beau. C'est l'éléphant.
Je suis conducteur de char et c'est vraiment le top. On est dans l'ambiance, c'est extraordinaire. On respecte nos traditions. Ils sont là pour s'amuser, profitent du ciel bleu, de la Côte d'Azur. Ils ont bien raison.
Eh bien oui, la bataille des fleurs, bon bah c'est un rêve. C'est magnifique.
Eh ben là, on vient donner les fleurs aux gens. C'est la tradition, comme chaque année, depuis des années.
Ce sont des tonnes et des...
Ah oui, il y en a un paquet de fleurs. Hein. Mais tout le monde est servi au moins.
Du mimosa pour madame et ça sent très bon.
Et ça va durer comme ça jusqu'au 5 mars. Reportage à Nice, signé Frédéric Michel. Donc, et puis il y en a un autre à Paris également.
Oui, un autre défilé. Le 13e arrondissement parisien va prendre de nouveau des faux airs de Pékin aujourd'hui pour l'impressionnant défilé du Nouvel An chinois. 200 000 spectateurs avaient assisté à ce Nouvel An chinois l'an dernier. C'est l'année, rappelons-le, du cochon.
Absolument.
Et à 8h13, zoom sur le sport avec Axel May.
Marseille gagne encore en Ligue 1. Monaco s'impose également, donc retour sur les matchs d'hier soir.
L'Olympique de Marseille a remporté 3 matchs à la suite pour la première fois de la saison. L'OM a battu Amiens 2-0 avec notamment un but de l'Italien Balotelli. Et grâce à ce succès, l'OM grimpe à la 4e place du championnat, classement provisoire bien entendu. Deux autres matchs de cette 25e journée de Ligue 1 ont eu lieu hier soir. Monaco d'abord qui confirme sa dynamique retrouvée avec un succès à domicile 1-0 contre Nantes. Le monégasque Djibril Sidibé raconte les coulisses de cette victoire.
Dès l'échauffement, on a beaucoup parlé. Dans le vestiaire, on s'est beaucoup motivé. Et puis, il y a eu beaucoup de fatigue, bizarrement. Mais voilà, l'essentiel, c'est les 3 points. Quoi.
L'essentiel, c'est les 3 points. Ça aussi, c'est une phrase footballeur. Le monégasque est ancien champion du monde, donc Djibril Sidibé, qui répondait à Frédéric Hélion. Victoire aussi d'Angers 3-0 face à Nice hier. Parmi les matchs du jour, Saint-Étienne PSG.
Et en ce début de saison, le cyclisme tricolore est à la fête.
Julien Alaphilippe, d'abord héros du dernier Tour de France, a remporté hier la 5e étape du Tour de Colombie. Et puis le Tour de Provence s'achève aujourd'hui. Si l'Espagnol Izaguirre occupe la première place du classement général, Thibaut Pinot est en embuscade à 2 secondes seulement. Pinot qui fait sa rentrée sur ce Tour de Provence et qui affiche la couleur pour la suite de la saison, remonter sur le podium du Tour de France comme en 2014.
C'est sûr que moi je clame pas au effort que je vais faire un podium, mais si j'en ai très envie. Mais on sait que le Tour de France c'est bien plus dur que ça. C'est facile d'annoncer un podium, mais c'est une des épreuves les plus dures. Donc pour arriver, être en meilleure condition et faire 5e ou 8e, mais voilà, c'est du sport, donc on ne peut pas vraiment savoir.
Le grimpeur de l'équipe Groupama FDJ, Thibaut Pinot.
Et puis en tennis, Gaël Monfils est en finale à Rotterdam, je crois.
Il va affronter cet après-midi le Suisse Stan Wawrinka et Gaël Monfils, surnommé la Monf.
La Monf, souhaite bonne chance, mais Wawrinka, c'est un coriace. Merci beaucoup, c'était 8h, présenté par Axel May, il revient à 9h.
8h15, merci d'écouter Europe 1.